Radio Okapi. Grande interview.
Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Grande interview reçoit pour vous aujourd'hui Jonas Tchombela, il est porte-parole du comité laïque de coordination et coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Avec lui, dans cette émission, nous parlerons du dernier communiqué du comité laïque de coordination intitulé « Ensemble, disons non à l'impunité et à l'impuissance de la justice ». Vous le savez peut-être, le CLC prévoit de commencer une grande croisade à partir du 1er octobre prochain contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice. Merci à Michel Kifinda qui réalise cette émission. Jean-Noël Mokondo est à la prise de son. Présentation et coordination, Kéline Couté. Jonas Tchombela, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, on va parler de ce dernier communiqué du comité laïque de coordination intitulé « Ensemble, disons non à l'impunité et à l'impuissance de la justice ». Pourquoi ce titre à votre communiqué ?
Ah mais vous savez, la situation que notre pays est en train actuellement de traverser reste critique lorsqu'on voit l'évolution des événements. Le peuple se battit pour la justice, pour l'alternance, mais là nous sommes en train de nous inquiéter sur la direction que nous sommes en train de prendre actuellement, qui ne reflète pas les aspirations de la communauté. Et voilà, le comité laïque de coordination estime qu'ensemble nous devons nous lever pour dire non à l'impunité et à l'impuissance de la justice lorsqu'on a vu beaucoup de scandales qui sont passés sans suite.
Est-ce que vous avez des exemples concrets pour dire que qu'on assiste là à l'impunité, à l'impuissance de la justice en RDC malgré l'alternance qu'il y a eu?
Mais vous savez bien, hier, lors de l'élection de sénateurs, l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs, vous savez qu'on a décrié dans ces assemblées provinciales la corruption, et jusqu'ici, personne n'a jamais été inquiété à cause de ce qui a été décrié dans ces assemblées. Les enquêtes ont été initiées par la justice, tambour battant, mais aujourd'hui on ne nous a jamais dit à quoi ils sont arrivés. Voilà pourquoi au niveau du comité laïque nous sommes en train de nous inquiéter. On nous a parlé de 15 millions qui ont été pris, détournés, pour dire le mot. Jusqu'ici, la justice a annoncé des enquêtes et nous craignons au niveau du comité laïque de coordination que ce soit une manière intelligente de déclasser ces dossiers pour que ça n'aille pas la suite et pour une façon de calmer les esprits. Et nous estimons qu'un état de droit ne peut pas être fondé sur base de telles réalités déjà. Des exemples démontrent à suffisance que nous sommes pas proches de la justice, mais nous sommes là en plein régime ou bien en plein règne de l'impunité, ce que nous ne pouvons plus accepter.
En parlant de l'affaire des 15 millions, vous exigez la suspension à titre conservatoire de toutes les personnes impliquées dans la disparition de cet argent du trésor public.
Mais c'est tout à fait normal. Vous savez qu'il y a eu une confusion totale. Personne ne sait même pas où se trouverait cet argent aujourd'hui. Lorsque nous avons suivi quelqu'un qui est cité dans le dossier et déclaré dans la presse étrangère que l'argent existe et que serait quelque part, plus tard, on va nous justifier que l'argent est affecté pour les 100 jours et maintenant le chef de l'État revient pour dire que c'était une rétrocommission. Maintenant, nous ne comprenons pas exactement cet argent se trouverait où et ça servit à quoi. Vous voyez déjà, à ce niveau-là, plusieurs noms sont cités dans ces dossiers. Alors, au niveau du comité laïque de coordination, comme nous sommes encore en train de croire à la justice de notre pays, nous estimons que ces gens-là qui sont cités dans ces conditions-là ne peuvent plus fonctionner ou rester en place ou bien travailler. On doit le suspendre à titre conservatoire pour que l'enquête qui est initiée par la justice n'ait pas des entraves. Parce que nous savons, vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé au Congo central. Pour que la justice avance, ils ont été de chercher comment de mettre ceux qui ont été impliqués dans le scandale du Congo central. Mais ici, personne ne branche pour dire que voilà, il y a des noms de gens qui sont cités, qui ont confondu les intérêts de la République avec leurs intérêts personnels et qu'ils doivent répondre devant la justice. Les positions stratégiques qu'ils occupent ne peuvent pas permettre à ce que la justice puisse continuer son travail. Voilà pourquoi le comité plaide, exige même que cela puisse être suspendu en attendant que la justice le blanchisse, par exemple.
Vous dites qu'il y a des noms qui sont cités, ces personnes bénéficient encore de la présomption d'innocence.
Exact.
Ces noms peuvent être cités à tort ou par règlement des comptes. Doit-on suspendre quelqu'un parce qu'il a été cité?
C'est une mesure administrative. Cette mesure doit venir de leurs autorités directes. Donc, pour permettre à la justice de continuer de faire son travail. Les positions stratégiques qu'ils occupent ne permettent pas à la justice de bien travailler. Parce que jusqu'ici, ils jouissent de présomptions d'innocence. Alors, pour que cette image qui est en train d'être ternie dans l'opinion ne soit pas davantage ternie, ils doivent se mettre à la disposition de la justice de telle manière qu'il n'y a que seule la justice qui peut blanchir quelqu'un d'un problème qu'on lui dit d'une infraction ou quelque chose qu'il a commis dans la société. Donc, si on laisse cette situation perdurer dans ces conditions-là, la confiance est déjà entamée au niveau de la population et les spéculations vont aller bon train.
Et vous pensez que tant qu'ils ne seront pas suspendus, la justice ne fera pas bien son travail?
Vous savez bien, nous avons encore des doutes sur l'efficacité du travail de la justice de notre pays. Vous vous souviendrez, j'ai évoqué tout à l'heure que la justice avait annoncé les enquêtes sur les allégations de la corruption dans les assemblées provinciales, mais la suite n'est jamais venue. Et là, elle a encore ouvert d'autres dossiers sur les 15 millions, mais jusqu'ici, nous craignons que ce soit une manière subtile de continuer davantage à déclasser ces dossiers sans suite, et nous, on va continuer à rêver que la justice va donner la suite, et ça peut être déclassé de cette manière-là. On ne peut pas construire un état de droit avec cette telle chose pratique. Déjà, ce qu'ils ont pu faire dans le passé, toutes les enquêtes annoncées dans notre pays au niveau de la justice, personne n'a jamais su la suite.
On a suivi quand même le chef de l'État qui a rassuré que la justice est en train d'enquêter sur cette question, il ne faudrait pas interférer. Est-ce que ça ne vous rassure pas que cette justice fera un bon travail?
Son passé ne nous rassure pas. Il appartient à la justice de nous expliquer ou bien de nous démontrer le contraire. Déjà, lui-même, le chef de l'État en intervenant, nous avons eu peur parce que le chef de l'État avait bien pris un bon profil de ne pas parler sur ces dossiers tant qu'elle était encore devant la justice. Maintenant qu'il a parlé, une sorte d'orientation entre guillemets est déjà ouverte et même le débat est désorienté. Et nous craignons que on ne puisse pas arriver au résultat. Dans tout le cas, il y a séparation des pouvoirs dans notre pays. Il appartient maintenant à la justice de nous démontrer le contraire.
Vous avez peur que l'on puisse déjà orienter la décision de la justice à cause des propos tenus par le chef de l'État. Est-ce que vous pensez que c'est une façon pour le chef de l'État de découvrir ces personnes qui sont citées dans cette affaire?
Mais vous savez que le chef de l'État, jusqu'ici, je crois qu'il doit beaucoup travailler autour de lui parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'il réussisse. Le comité laïque de coordination s'est battu dans ce pays pour obtenir cette alternance et ne peut pas accepter que les choses qui doivent être faites pour le compte de la population ne soient pas faites à cause des individus ou des personnes qui ont mis devant leurs intérêts égoïstes au détriment des intérêts de la communauté. Donc, nous pensons que le chef de l'État le fait de bonne foi, mais malheureusement, nous craignons qu'il y ait encore des gens qui continuent à croire que nous sommes dans une république d'impunité. Et le comité laïque de coordination s'élèvera contre cela.
Vous prévoyez de commencer une grande croisade à partir du 1er octobre contre la corruption, l'impunité et l'impuissance de la justice. Ça va se passer comment?
Ah oui, vous savez, par souci de stratégie, de telles choses ne peuvent pas être dites sur la place publique. Tout ce qu'au niveau du comité de coordination attire l'attention de la population congolaise, que l'heure est grave, nous devons nous lever pour consolider la démocratie, pour quand même qu'on puisse jouir de l'alternance que nous avons eue au prix du sang. Donc nous ne pouvons plus accepter que des pratiques qui nous ont poussés à militer pour l'alternance puissent revenir encore. Donc, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Les activités, la croisade qui est annoncée par le comité laïque de coordination, vous le saurez après le premier, parce qu'à ce stade, nous sommes encore en train de faire confiance à la justice et la réponse qu'on peut nous apporter au niveau des institutions, au niveau des autorités de la République. À ce stade, nous continuons à croire. Et d'ailleurs, je vous annonce que le comité laïque de coordination est en train de chercher d'entrer en contact avec toutes les autorités autorités de la République pour parler de ces dossiers avant qu'on arrive, par exemple, au face-à-face. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là-bas.
Alors là, vous êtes sur l'affaire 15 millions.
Nous sommes sur l'affaire de 15 millions.
Et si d'ici avant le 1er octobre, on a les résultats de l'enquête, vous allez suspendre la croisade?
Bon, écoutez, nous sommes là. Vous savez que le rôle du comité laïque de coordination actuelle, c'est la sentinelle de la République. C'est-à-dire surveiller la transparence de la gouvernance de la République. Donc, jusqu'ici, je ne peux pas vous dire on va suspendre ou on ne va pas suspendre, mais ce qui est au moins sûr, c'est maintenu.
Alors, les nouvelles autorités ou le nouveau président n'a que 9 mois à la tête de ce pays. Vous commencez déjà avec des menaces, des manifestations. Est-ce qu'on ne risque pas de mal prendre votre initiative?
Non.
Est-ce que ça ne sera pas chercher à déstabiliser les institutions?
Non, nous ne sommes pas intérêts de déstabiliser les institutions. Par contre, nous sommes bâtis pour l'alternance. Nous avons intérêt de soutenir l'alternance. Ça veut dire que nous voulons consolider ce que nous avons gagné. Donc, il n'y a pas moyen de déstabiliser les institutions. Nous ne sommes pas intérêts de combattre les institutions. Mais dans les institutions, il y a des individus qui semblent revenir aux vieilles méthodes que nous avons combattues. Et cela, ça ne va pas aider le chef de l'État. Le comité laïque n'est pas intérêt de combattre le chef de l'État, ni son programme, ni son gouvernement. Mais des mauvaises pratiques. D'ailleurs, le chef de l'État a prôné le changement de mentalité et l'action du comité laïque de coordination doit être comprise dans ce contexte-là.
Vous exigez aussi dans votre communiqué la démission des 9 personnalités qui constituent actuellement la Cour constitutionnelle et donner à cette institution la chance de retrouver sa crédibilité.
Ben vous savez, je suis en train de parler de la justice tout à l'heure, elle ne rassure personne. La justice de notre pays, lorsqu'on a vu comment ils ont invalidé, révalidé, retourné à cause des erreurs matérielles d'une telle instance, on ne pouvait pas attendre de tels comportements. Voilà pourquoi, et au niveau même de la Cour constitutionnelle, il n'y a pas une chambre qui pourra prendre des mesures disciplinaires contre ces juges qui sont mal comportés. Voilà pourquoi le comité laïque de coordination exige que ces juge puisse démissionner tout simplement.
Il y a un délai?
Nous verrons. Pour le moment, nous sommes en train de suivre le délai. Donc, le comité demande à ce qu'il puisse démissionner pour redorer l'image technique de la justice de notre pays, pour redonner la confiance à la justice de notre pays. Ça fait partie de la pratique de la démocratie. On ne comprend pas pourquoi les gens se cramponnent quand ils ont mal fait des choses. Mais quand ils les font bien, nous allons les applaudir. Mais là, nous sommes dans un cas où les choses n'ont pas été bien faites. Il faut alors redorer l'image de la justice. Déjà, vous avez vu les enquête que j'ai décriée, le travail qui s'est fait au niveau des juges lors des traitements du contentieux liés aux élections législatives, ça ne nous rassure pas que nous avons une justice juste.
Mais avec la vision du nouveau président de la République, ça non plus, ça ne vous rassure pas. Vous ne pensez pas que la justice pourrait redorer son image et être crédible aux yeux des Congolais?
Nous ne sommes pas dans le domaine de la croyance, madame. Nous sommes dans le domaine... Les Congolais ont beaucoup vécu des choses et ils ont entendu beaucoup de choses, beaucoup de promesses, beaucoup d'engagements de leurs autorités. Nous sommes maintenant tombés au stade où nous devons tout voir et vivre. Et dans ce cas précis, il appartient à la justice de notre pays de démontrer le contraire de ce que nous sommes en train de décrire pour reconstituer la confiance perdue.
Un petit bilan du travail de l'actuel chef de l'État, 9 mois après sa prise de fonction. Comment vous jugez?
Nous avons salué son discours d'investiture qui s'est engagé sur pas mal de problèmes. Nous sommes en train actuellement de suivre le programme du gouvernement. C'est le seul instrument qu'il pourra concrétiser son programme. Nous avons salué le fait que dans le cachot, ces cachots ont été dans certains cas théoriquement fermés, mais il y a encore d'autres qui fonctionnent par-ci par-là. Il faut que ça cesse dans le pays. Les signaux ont été extrêmement forts et qui n'avaient pas le gouvernement, nous ne l'entendons pas rigueur. Mais nous voulons que les choses soient recadrées dans le sens de l'intérêt de la communauté. Ce que nous avons décrit sur les 15 millions, ça ne peut pas nous rassurer que nous sommes en train d'aller sur une bonne voie. Nous sommes en train d'attirer son attention pour recadrer les choses parce qu'il a une vision et il a un programme, il a des engagements qu'il a pris avec la population et que ces engagements doivent être tenus. Et nous, on surveille ça. C'est ça le travail. Donc, s'il y a un bilan à faire, il n'avait pas le gouvernement, il a fait quelque chose avec le 100 jours. Et nous ne pouvons pas ne pas saluer les biens qu'on a fait pour le peuple congolais. Ça, nous saluons et nous vous l'encourageons davantage à le faire davantage. Seulement, dans ce programme de 100 jours, nous aurions souhaité qu'il y ait des observateurs indépendants qui doivent suivre l'exécution et la mise en œuvre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ma foi, mais ce n'est que le premier pas. Comme il a eu le gouvernement, nous sommes en train de le tenir à l'œil.
Jonas Tombela, je rappelle que vous êtes porte-parole du comité laïque de coordination et coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Lors de son interview accordée aux médias français TV5 Monde, le chef de l'État, en réponse à ceux qui réclament justice pour des crimes commis pendant la période Kabila, Félix Tshisekedi a déclaré qu'il ne fera pas le travail d'aller fouiner dans le passé. Ce qui est prioritaire aujourd'hui, selon lui, c'est le développement du pays. Vous avez combattu contre les répressions. Lorsque vous entendez cette réponse du chef de l'État, qu'est-ce que ça vous fait?
Ça nous inquiète. Ça nous inquiète tout de suite. Parce que M. Félix, que je connais personnellement, que j'ai rencontré plusieurs fois, vous savez, c'est quelqu'un qui vient d'un parti politique et qui s'est engagé pour la valeur d'un état de droit. Donc l'état de droit ne peut pas sacrifier, la justice ne peut pas sacrifier les victimes, des milliers de victimes économiques même, beaucoup de choses qui sont passées dans ce pays au nom des principes de la gouvernance publique politique dont il est dans une coalition. Nous ne pouvons pas accepter cette démarche. Par contre, nous l'avons suggéré des choses. C'est qu'il peut...
Vous ne pouvez pas accepter qu'il puisse sacrifier. Vous pensez qu'il sacrifie
les victimes
de l'ère Kabila? Comment
les,
ça
les victimes ont été commis dans ce pays, des crimes ont été commis dans ce pays dans tous les sens. Le problème, ce n'est pas l'ère Kabila. Le problème, les actes se sont posés dans notre pays que nous ne pouvons plus tolérer dans l'avenir. Donc, la lutte contre l'impunité, qu'il est lui-même annoncé dans son discours d'investir, là, ça venait de prendre un coup sérieux. Lui, il est la personne, le numéro un de la République, qui donne l'impulsion pour que les institutions... Il est le garant de bon fonctionnement des institutions de la République. Déjà, en prenant une telle position, ça friste des milliers de victimes qui sont dans la République. Et comment voulez-vous que les victimes puissent cohabiter avec les bourreaux qui circule, cette femme qui a perdu son mari, cet homme qui a perdu sa femme ou qui a perdu sa fille, et voir celui qui a tué sa vie circuler librement en toute impunité, ce n'est pas un état de droit. Par contre, nous suggérons au niveau au chef de l'État, s'il est mal à l'aise dans sa coalition politique qu'il a avec tout ce qui s'est passé dans le passé, il y a moyen de mettre en place la commission Vérité et Réconciliation, qui est une commission qui peut réconcilier les Congolais. Le développement dont il fait allusion, aussi la réparation. Donc, la réparation, c'est la réconciliation. Donc, nous, on facilite. Si on ne veut pas rentrer dans le règlement de compte, mais au moins, la réconciliation doit être possible entre ceux qui ont commis des fautes et ceux qui ont été victimes de ces fautes. Donc, cette réconciliation-là, il doit ouvrir une fenêtre. Et là, c'est ce que nous attendons de lui. Par exemple, la commission Vérité et Réconciliation, pour qu'on se réconcilie avec tous ceux qui sont frustrés. Mais ce propos-là, vous imaginez des milliers de gens qui ont été dans le cas?
Le chef de l'État encourage les victimes à porter plainte contre leur bourreau.
Ça, nous saluons. Il n'a même pas encouragé, c'est ce qui doit être fait. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est vers cette justice où la méfiance est totale. Où la méfiance est totale au niveau de la communauté. Pourquoi ils n'étaient pas allés hier devant cette justice et qu'aujourd'hui on les encourage à aller vers cette justice? C'est comme ça que nous attendons les signaux forts de cette justice pour nous démontrer qu'elle est devenue une justice juste, indépendante et qui est au service de toutes en toute impartialité. Ce qui n'est pas encore le cas. Il faut que les signaux forts viennent de la justice. Nous savons aussi que le chef de l'État n'a pas interdit les victimes d'aller vers la justice. Nous savons également qu'on n'a pas interdit à la justice de poursuivre ceux qui ont commis des crimes. Donc, vous voyez, ça nous le savons. Mais c'est une institution politique de la République ne veut pas prendre une telle position.
Vous plaidez pour qu'on puisse créer une commission Vérité et Réconciliation. Est-ce que ça ne sera pas une structure de plus? La justice est déjà là pour poursuivre les bourreaux.
Mais parce que ça peut nous amener à résoudre un problème qui se pose. Il y a de la malaise dans la société. Il y a des gens qui ont commis des crimes qui risquent de croire. Vous savez, nous avons connu dans ce pays des lois d'amnistie qui sacrifient encore les victimes. Et là, la position du chef de l'État semble encore sacrifier les victimes. Donc, nous ne voulons pas qu'on arrive à croire comme si dans ce pays, les gens peuvent venir tuer, violer, détourner et que rien ne peut les arriver en fonction de la justice. Donc, nous voulons que cela ne se répète plus. Mais il doit y avoir quand même un cadre qui doit canaliser cela. Il a promis lui-même dans son discours d'investir de faire de la question de la réconciliation sa priorité. Voilà une manière de faire cette question. La priorité, c'est d'aller la réparation, peut-être morale.
ça peut être moral. On ne demande pas quelqu'un qui est déjà tué, on ne va pas le faire revenir à la vie. Mais moralement, la personne qui est restée, il vit une certaine culpabilité d'avoir perdu un membre cher de la famille. Il faut qu'il y ait quand même une sorte de consolation de la société. Là, nous sommes en face d'une société où on a assisté à des massacres, on a assisté à des détournements, mais on nous dit, bon, on ne va pas y revenir, on continue. Le développement, c'est aussi la réparation et la réconciliation.
Jonas Tombé, la porte-parole du comité laïque de coordination et coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Parlons de la nouvelle société civile du Congo. Comment elle va?
Bon, la nouvelle société civile se porte bien.
Il y a quelques temps, vous avez lancé une campagne de dépolitisation et réforme de la commission électorale nationale indépendante, CENI. On sait de où est-ce qu'on en est?
Oui, nous sommes en train de continuer le travail de la sensibilisation. Nous avons été dans les Maïndombe à Semendoa, nous avons été à Bokoro, à Nyoki, nous sommes rentrés à Gemena, nous étions dans le 2 Kassai, le 3 Kassai.
Pour
sensibiliser la population, parce que cette campagne a plusieurs phases. Là, cette première phase, il faudra que la population qui est bénéficiaire des effets des élections puisse d'abord être sensibilisée. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur la loi organique. Nous avons appris avec joie l'honorable Tundula à présenter un projet de loi qui du reste nous a envoyé la copie. Nous sommes en train de voir comment enrichir ce projet de loi et l'autre phase va consister à aller vers le député, faire le plaidoyer pour que finalement ils améliorent le dispositif de la gouvernance électorale du pays et ça peut nous aider. Par cette campagne, nous avons lancé une pétition qui se poursuit jusqu'ici au niveau de la population, sur l'ensemble du pays.
Le retour, il est comment? Est-ce que vous êtes satisfait du retour?
Le retour, la population était contente de ce qui s'est passé dans ce pays. Elle veut que choses changent quand même. Au moins, lorsque j'étais à Kwilungongo, j'ai vu des milliers de gens qui sont venus signer. J'étais à Lukala, j'ai suclé. Partout où je suis passé, je n'ai pas vu un seul endroit où on ne nous a pas salué, où on n'a pas accepté cette pétition. C'est une autre manière de sensibiliser la population pour qu'elle prenne conscience de prendre en charge son avenir. C'est en fonction des lois de la République que nous sommes en train de formuler cette pétition-là. Donc, le feedback de la population est favorable au changement. Nous voulons avoir une nouvelle institution juste, équilibré, où nous serons à avoir des élections avec moins de contestations que des problèmes que l'institution elle-même crée à cause des lois qui ont été faites et taillées sur mesure.
La société civile en RDC est plurielle. Il y a une autre aile de la société civile qui demande à ce que la présidence de la CENI ne revienne plus aux confessions religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'étais dans cette réunion-là où je rencontrais Mme Mabunda avec les autres collègues de la société civile. J'ai suivi dans la salle les gens aller dans ce sens. Mais tout ça, c'est les lois qui doivent être claires. Voilà pourquoi nous, à la société civile, on ne voit pas d'abord l'individu qui va animer. Nous voyons d'abord la base. On reconnaît un bon mensonge par la fondation. C'est la fondation qui est déjà mauvaise et biaisée, qui plonge beaucoup d'incertitudes dans la désignation. Après, nous verrons qui de la société civile peut animer cette institution là-bas. Pour le moment, ce débat-là, nous, on ne pense pas qu'il soit opportun. Le vrai débat, c'est la réforme. Après la réforme, on peut voir...
La réforme et la dépolitisation.
La dépolitisation.
C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de politique dans le bureau de la CENI.
Non, ce n'est pas ça que nous, on entend par la dépolitisation. La dépolitisation, ça veut dire que je vous donne un exemple. Je venais d'une mission au Burkina Faso où je suis allé avec les collègues de la société civile voir comment la commission, elle s'appelle aussi CENI du Burkina Faso, s'organise et s'est organisée. Nous avons vu le modèle, il est bon. On peut voir comment certaines choses positives là-bas peuvent être captées chez nous. Par exemple, au Burkina Faso, il y a trois composantes au niveau de la CENI. Société civile, opposition et majorité. Tous c'est 5 personnes, société civile, 5 majorités, 5 sociétés civiles. Donc, ils sont en ordre, en une représentativité équilibrée. Donc, ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Majorité 6, opposition 4, société civile 3. Déjà, nous y allons en ordre de vainqueurs et vaincus. Ça ne peut pas promouvoir la démocratie dans cette institution. Donc, la dépolitisation au niveau de la nouvelle société civile, nous l'entendons par le fait de rééquilibrer les forces qui vont, il n'y a pas une force qui
doit être
dessus.
C'est-à-dire les mêmes nombres dans le bureau.
Exact. Si on a, comme on a aujourd'hui, 6 de la majorité, on doit avoir aussi 6 de l'opposition et 6 de la société civile. Ça, la dépolitisation. Parce qu'il n'y a pas une force qui neutralise l'autre. Là, en ce moment-là, on peut quand même y aller en ordre d'équilibre. Jusqu'ici, nous y allons avec le dictat d'une seule composante, ce qui a vécu les élections de 2006, de 2011 et même celle de 2018. Allons-nous continuer sur ce chemin-là? Non.
Vous pensez qu'on peut y arriver?
On peut y arriver s'il y a une bonne dose de la volonté politique. Je crois qu'on peut. Si on pense que les élections doivent être une occasion de joie et qu'elles deviennent une occasion de déchirer notre société, nous pouvons y arriver.
Comment vous allez faire pour convaincre les politiques?
Mais les politiques, nous ne sommes pas en train de les chasser. Nous ne sommes pas en train de les chasser.
Comment vous allez faire pour les convaincre? C'est que, qu'il y ait un même nombre pour toutes les composantes qui vont composer le bureau.
Vous savez, lorsque nous disions déjà en 2013, lorsqu'on changeait la loi, nous les disions déjà que la commission électorale que nous avions portée déjà des germes d'instabilité, de ceci. Si la majorité change, ça va toujours changer chaque fois. Il faut équilibrer les forces. Pour le moment, ce que nous ferons, c'est placer les députés là, qui sont au Parlement et les sénateurs devant les responsabilités. C'est devant les mêmes électeurs qui reviendront, mais qui ne viennent plus nous manipuler parce que nous avons là une bonne opportunité d'arranger les choses au début du mandat. Il ne faut pas qu'on attende les dernières minutes. C'est ce que j'ai failli dire à Madame la Présidente de l'Assemblée, mais je n'ai pas eu l'occasion de le dire directement. Mais je pense que c'est maintenant que nous devons préparer les élections de 2023. Déjà, on recadre les lois, on peut les requalifier, on peut maintenant mettre déjà à côté le budget pour les élections à venir, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Il ne faut pas attendre les dernières minutes pour commencer à précipiter les choses. Les opérations qui doivent passer avant ne passent pas. C'est le moment de recadrer les choses. Nous sommes encore au début du mandat. Il ne faut pas qu'on vienne encore bouleverser l'équilibre de notre communauté en termes de la paix à cause de l'imprudence de l'homme politique. C'est pourquoi nous attirons son attention dès la première heure. Donc, ils sont devant les responsabilités. Nous ferons ce que nous pouvons, aller vers eux. Nous irons au Parlement pour les communiquer ce qu'ils doivent faire. Nous irons au Sénat pour leur dire ce qu'ils doivent faire, qu'ils rencontrent les aspirations de leur base. C'est pour cette raison que tu as vu notre campagne est allée vers la base. Lorsqu'ils vont en vacances parlementaires, ils rencontrent cette question. Et nous verrons comment ils vont se comporter et nous viendrons vous dire, voilà l'opposition des politiques, voilà ce qu'ils veulent. Et nous prendrons encore le peuple congolais à témoin de bonne foi que voilà, nous sommes en train de chercher un schéma des élections crédible. Voilà ce que la classe politique veut. Et qu'elle-même, cette classe politique demain, ne vienne plus vous manipuler.
Le chef de l'État appelle les Congolais au changement de mentalité. Quel est votre rapport, vous, de la société civile, dans cette campagne?
Ben, écoutez, c'est une question qui nous préoccupe, nous. Je vous dis encore ici. Lorsque le gouvernement Matata avait institué le ministère de la Nouvelle Citoyenneté, nous étions parmi les premières institutions de la société civile à écrire au ministre Mende de trouver une possibilité de les rencontrer pour voir dans quelle mesure on peut donner le contenu. Il nous avait promis qu'il allait nous recevoir. C'est dommage, il est parti, il ne nous a jamais reçu. Donc là, le président de la République vient encore de lancer le concept qui a déjà été lancé. Maintenant, il faut qu'on lui donne un contenu. Nous, notre main reste tendue pour avoir qu'est-ce que nous pouvons mettre dans les changements de mentalité prônés par le chef de l'État comme contenu au niveau de la communauté pour que finalement les pratiques que nous avons décrites ne reviennent plus. Voilà. Nous sommes favorables à la démarche et à notre niveau, déjà nous travaillons. Le fait de conscientiser la population, le fait de parler sur les questions de l'environnement, le fait de parler déjà sur nous allons bientôt lier la santé à l'environnement en plantant des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique. Nous sommes en train de lutter contre l'insalubrité dans la ville. Autant d'éléments de comportement qui sont dans notre société, mais que nous devons accompagner la vision du chef de l'État dans cette direction-là. Donc, notre main reste tendue et nous restons disponibles pour étudier avec eux qui ont le moyen le plus important de la République, dans quelle mesure la nouvelle société civile peut aussi contribuer à cette démarche du changement de mentalité dans notre société. Parce que c'est un processus qui ne va pas aujourd'hui porter les fruits, mais qui doit être déjà démarré à partir d'aujourd'hui.
Jonas Tchoumbela, c'est un plaisir de vous recevoir dans le grand interview. Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent.
Le pays ici nous appartient et nous devons y travailler. Si nous ne faisons rien pour le bien de ce Congo, personne d'autre ne le fera à notre place. Et s'il le fait à notre place, ce n'est pas à notre faveur. Vous êtes avertis.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous dis merci.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jonas Tchombela, porte-parole du comité laïque de coordination et coordonnateur national de la nouvelle société civile du Congo. Merci à Michel Kifinda qui a réalisé cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde à la présentation. Kéline Kouté, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. 22 programmes sur la fréquence de la paix.